Alors, Airshaft, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le groupe?
Oui, alors écoute, Airshaft, on est un groupe créé en 2004. C'est un groupe d'électrométal français, on peut même dire industriel. On est là aujourd'hui pour parler de notre cinquième album, Le Festin du Lion, qui est sorti le 21 juin dernier sur le site UFS, Stand Season of Me.
D'accord. Avant d'attaquer plus en détail le groupe et ce que vous avez fait, tu peux te présenter toi au niveau artistique? Qu'est-ce que tu avais fait avant? Un peu tes... Voilà, comment tu t'es arrivé là-dedans?
Moi je suis Zoé, hein, je fais partie des premières heures du groupe, je suis guitariste en live, tout ce qui est aussi composition et production avec Max, mon binôme, dans lequel on est vraiment voilà, un duo électro-métal, on travaille ensemble depuis 15 ans maintenant.
D'accord. À l'origine du projet, c'était quoi votre démarche? Qu'est-ce qui vous avait rapproché? Qu'est-ce que vous aviez comme idée?
Écoute, à l'époque, en 2004, on voulait vraiment faire une fusion parfaite entre l'électro et le métal. On voulait pas que le métal prenne le pas sur l'électro ou inversement. On voulait vraiment faire un truc qui soit une fusion parfaite. Il y avait beaucoup de groupes indus à l'époque, en tout cas qui disaient indus, qui faisaient beaucoup de métal et qui ajoutaient une petite touche d'électro. On voulait vraiment un truc qui soit une fusion parfaite, une homogénéité parfaite entre les deux styles à 50-50, sans laisser la part belle à un style ou à un autre.
D'accord, tu mentionnais à l'instant, donc vous aviez des groupes un peu influence, et vous vous retrouviez sur qui?
Ouais, bien sûr, à l'époque on a commencé tout le monde du groupe qui a une consonance un peu germanophone, hein,
ouais.
Des grosses références sur évidemment Rammstein, Wolf, et puis même les bars ensuite, et puis du côté américain, peut-être Prodigy, Rob Zombie, Mitri, ces choses-là.
D'accord, moi en vous écoutant, j'ai plutôt eu l'impression d'une école norvégienne.
Au début, on faisait beaucoup de black electro finalement. Au début, on avait ces influences un peu germanophones, etc. Mais c'est vrai qu'on faisait plus du black electro, peut-être de la Covenant, mais on allait chercher aussi dans Mayhem, dans Emprom, dans ces choses-là. Oui, c'est vrai. C'était un peu plus les premières années du groupe, c'était un peu plus black, c'est vrai.
D'accord. Toi, au niveau personnel, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, un événement, un groupe, une chanson, un truc qui t'a éveillé à la musique, ou en tout cas à l'envie, non pas simplement de l'écouter, mais d'en faire?
Oh, moi, quand j'étais plus jeune, ce qui m'a vraiment éveillé musicalement, c'était Marilyn Manson. Je pense que c'était à l'époque de Megadeth, Sabaton. C'est là que j'ai eu envie vraiment de faire un peu de la musique et d'explorer un peu plus l'indus. Nine Inch Nails aussi, ouais. Ouais, ça c'est mes deux grosses références à moi, ouais. D'un point de vue personnel.
Avec toujours la double dimension qui est souvent dans votre domaine d'activité, qui est la musique, mais il y a un côté visuel fort.
Ouais.
Et Marilyn Manson, c'était déjà ça, quoi.
Ouais, c'est quelque chose qu'on a toujours essayé de développer. On n'est pas seulement un groupe de musique, on a un groupe d'art global. Et on a toujours essayé de développer la musique, mais aussi le visuel en termes de clip, en termes de scénographie. Voilà, pour nous, il n'y a pas que. On n'est pas juste un groupe de musique, on développe aussi tout le reste autant qu'on peut à 50-50, c'est sûr.
D'accord. Si on revient un peu donc sur le passé, votre dernier album, entre guillemets original, c'est Les 12 Vertiges en 2013.
En 2013, ouais.
Ouais. Si tu reviens un peu dans ton passé, dans ta mémoire, est-ce que tu as un événement ou tu as un souvenir particulier qui pour toi synthétiserait un peu cette période, Les 12 Vertiges?
Les 12 Vertiges, c'est un album qu'on avait créé déjà avec Max, encore aujourd'hui. On essayait d'évoquer nos expériences personnelles, expériences de drogue. Et on avait appelé cet album Les 12 Vertiges parce qu'il y a 12 morceaux et chaque morceau était une expérience introspective qu'on avait eue avec la drogue, avec les gens qu'on côtoyait, avec des choses comme ça. C'était une expérience plus personnelle et plus introspective que ce qu'on fait aujourd'hui avec le Festin du Lion. C'était très intéressant, mais c'est aujourd'hui maintenant c'est en 2013 et on a changé un peu notre fusil d'épaule aujourd'hui sur le nouvel album.
D'accord. Entre-temps, vous avez aussi sorti une compilation qui est Time and Dust.
En 2014,
ouais,
c'était les 10 ans du groupe, absolument.
J'allais dire, ouais, c'est donc l'idée, c'était donc de profiter de l'anniversaire du groupe pour sortir. Et donc, de mémoire, c'est quoi? C'est des titres remixés, c'est ça?
En fait, c'est que pendant 10 ans, on a collaboré avec plusieurs autres artistes, soit d'autres groupes qui sont aujourd'hui, qui n'existent plus pour la plupart d'ailleurs. Et voilà, on avait accumulé une énorme quantité de remix qu'on a fait pour beaucoup d'autres groupes qu'on fait pour nous. Et c'était l'occasion, sans sortir un nouvel album studio, de fêter les 10 ans du groupe avec nos anciens morceaux remixés ou avec des morceaux qu'on remixait des autres. Tout à fait, ouais, c'était un album anniversaire, on va dire.
D'accord, donc effectivement, si on regarde votre disco, vous sortez un disque tous les 5-6 ans. Est-ce que c'est un rythme artistique naturel pour vous, créatif, ou c'est, bah, vous, c'est les activités des uns des autres, les aspects matériels ou financiers qui vous freinent un peu?
Non, il y a deux raisons à ça. Si on a mis 6 ans à composer ce nouvel album, c'est qu'une part, on s'est réorganisé en 2014. C'est-à-dire qu'on était un trio à la base, Max et moi, et plus un chanteur qui s'appelait Zédic. Et en 2014, le chanteur a décidé de partir dans d'autres horizons. Donc on s'est retrouvé à deux avec Max, et là on s'est posé la question de savoir si on continuait à deux ou si on recrutait de nouvelles personnes pour prendre la place de Zédic. On a finalement décidé de continuer uniquement à deux, de rester en duo ensemble, et Max du coup a pris le poste de chanteur qui était vacant. Partant de là, il a fallu énormément travailler parce qu'il n'avait jamais fait de chant avant. Il a travaillé pendant un an d'arrache-pied, à être coaché, à prendre des cours de chant, etc. Et il a fallu tester ça d'abord en studio, être sûr que la nouvelle voix d'Air Shaft nous correspondait, que ça nous plaisait. Et ensuite, une fois qu'on a coché cette case et que le voyant était ouvert, on a pu l'essayer en live. Il a fallu voir si cette nouvelle formule fonctionnait pour tout ce qui était concert, live, etc. Donc on a aussi pris le temps de tester ça. Et là-dessus aussi, on était d'accord pour la faire bien. Et donc déjà, 2 ans s'étaient passés pour reformer le groupe, pour le reconstruire sur des temps. Ensuite, ça a pris 3 ans à composer ce nouvel album, parce que c'est une musique très lourde, qui a beaucoup d'inertie, qui a besoin d'énormément de travail. Et c'est pour ça qu'on a eu autant de temps à composer ce nouvel album. On espère qu'on en mettra moins pour le prochain. Et on avait une inertie qui était forcément lourde pour composer ce nouvel album, dû à la reformation et dû à la musique.
D'accord. C'était aussi donc une période où vous avez peut-être dit qu'on pouvait entre guillemets modifier une partie de l'identité du groupe. Est-ce que, par exemple, vous avez pu vous poser la question de savoir si vous restiez sur du chant extrême?
Oui, on s'est posé la question. C'est tombé sous le sens. Quand Max a posé ses premières parties chant, on a vite compris que c'était quelque chose qui nous convenait, qui nous correspondait. Et on s'est posé la question maintenant de savoir est-ce que c'est ce qu'on veut transmettre, est-ce que c'est ce qu'on veut véhiculer comme chant, etc. On est quand même moins violent qu'avant au niveau du chant. Avant, on avait un chanteur qui avait une voix beaucoup plus black. Aujourd'hui, on a un chanteur, Max, qui a une voix peut-être un peu plus rauque, qui est un peu plus grave, un peu moins black metal. Elle est peut-être moins extrême, mais elle nous convient mieux aujourd'hui et elle correspond à ce qu'on veut véhiculer encore une fois.
Ok. Est-ce que le choix aussi, là je ne veux pas rentrer dans de la psychologie de comptoir, mais est-ce que l'idée aussi de rester à deux, c'est de dire vous aviez un certain équilibre et donc ajouter un nouvel élément, c'est toujours potentiellement un grain de sable?
Ouais, complètement. Et en même temps, des fois être à trois, c'est parfois bien pour trancher quand deux ne sont pas d'accord. Mais nous, on a trouvé notre équilibre en étant à deux. On arrive à se mettre d'accord sur des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On arrive à trouver un équilibre parfait. On l'a toujours eu de rechercher cet équilibre à deux. Et là maintenant, on l'assume pleinement en se retrouvant juste nous deux et en décidant nous-mêmes et en étant même maître de ce qu'on fait de A à Z.
D'accord. En général, qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement les sessions d'enregistrement du Festin du Lion? Et est-ce que surtout vous avez modifié vos façons de travailler, même en étant deux, par rapport à le passé ou par exemple les 12 vertiges?
Non, on n'a pas vraiment modifié notre façon de travailler parce qu'on fonctionnait déjà comme ça, à envoyer les morceaux l'un et l'autre, à faire une sorte de ping-pong, à construire brique par brique chaque morceau. Ça n'a pas beaucoup changé. Après, les sessions d'enregistrement maintenant sont limitées rapidement parce qu'on n'est plus que deux à décider. C'est plus ce qu'on veut et dans quelle direction on veut aller. Et finalement, on a même trouvé un peu plus de légèreté et de rapidité dans la façon dont on travaille.
Et de mémoire, vous enregistrez chez toi, dans un studio que tu drives ou...
Écoute, moi je suis ingénieur du son de formation, j'ai mon propre studio à Paris dans lequel je produis des groupes. Ouais. Dans lequel travaille pour produire des groupes, donc c'est de faciliter. C'est évidemment un avantage d'un certain point de vue de se dire ok, on est maître de A à Z de notre musique, on a le son qu'on veut, le son qu'on recherche, on est complètement maître, on n'est pas dépendant de qui que ce soit d'autre. Et puis évidemment d'un autre côté ça peut être un inconvénient parce qu'on n'a pas de pression, pas de limite et qu'on peut sortir ça quand on veut.
Ouais, alors tu ne mentionnais pas, mais avec les circonstances que tu as mentionnées, mais la longueur que vous prenez entre chaque disque, vient pas un peu de ça?
Si, bien sûr, ça joue aussi. Mais ça vient surtout du fait qu'on ne sortira jamais quelque chose qu'on n'est pas pleinement satisfait. Si, en fait, on a suffisamment de matière pour sortir un album tous les 2 ans, si on voulait. Mais tant qu'on n'en est pas satisfait, on va continuer à travailler. On n'a pas du tout envie de proposer quelque chose aux gens dont on n'est pas complètement satisfait. La longueur de production vient de là, plus que du fait qu'on travaille en dilettante ou pas. C'est pas vrai, en fait, on travaille pas en dilettante. cet album, on l'a commencé il y a 6 ans, dès la sortie de l'album précédent, et on n'a pas cessé de travailler dessus depuis.
D'accord.
Évidemment, il y a eu des petites périodes de blanc parce que j'ai eu d'autres projets dans lesquels je suis aussi ingénieur du son, dans lesquels je produis, etc. Mais globalement, il n'y a pas eu de temps mort, et si on ne sortait pas quelque chose avant, c'est parce qu'on n'en était pas complètement satisfait.
Ok. Sur ce que vous composez, quel est le ratio vous jetez et vous gardez?
C'est difficile à dire en fait, parce qu'on jette pas grand chose, mais il y a des morceaux sur cet album qui datent non pas de l'album d'avant, mais de l'album encore avant, de 2008. Il y a des choses qu'on recycle forcément, mais qu'on recycle parce qu'on sentait le potentiel à l'époque, mais il n'était pas encore au niveau, il n'avait pas maturé assez pour apparaître sur cet album.
Et donc, je sais pas, sur ton ordinateur, t'as des répertoires avec des centaines ou des dizaines d'idées, et puis soit tu trouves ça fit ou ça fit pas et tu gardes ou.
C'est complètement ça, hein. Une espèce de grosse boîte partagée entre nous dans laquelle on a toutes nos idées, on en a des centaines et on va toucher dedans et on les ressort des fois de la cave alors qu'on avait complètement laissé de côté à l'époque. On va piocher dedans et selon nos inspirations, on les retravaille complètement et donc parfois plus rien à voir avec ce qu'elles étaient au départ. Ouais, on a complètement une boîte à idées dans laquelle on va piocher régulièrement, ouais.
D'accord. Est-ce que, avec l'expérience ou avec la pratique, il y en a un de vous qui fait quand même un peu plus l'électro et un peu plus le métal, ou c'est très équilibré?
C'est très équilibré. Très équilibré. Max était batteur à la base, donc c'est vrai qu'il a peut-être un peu plus la main mise sur les rythmiques, les choses comme ça, mais ça n'empêche pas de composer des rythmes de guitare, alors qu'il fait la guitare en live, et en même temps, il a une très bonne sensibilité sur l'électro, et moi aussi, donc c'est vraiment la charge est vraiment bien répartie entre les deux. On écrit les paroles ensemble, même si c'est lui qui les chante au final. Donc non, on a un équilibre parfait là-dessus et ça plaît, qu'on assume et qu'on aime développer sur tout le projet.
Ok, tous les titres finalisés sont sur le disque ou vous en avez écarté certains parce qu'ils collaient pas à l'ensemble au niveau homogénéité?
On en a écarté certains et c'est pas exclu que par contre les morceaux qu'on a écartés, on les ressort.
D'accord. D'accord. Certains artistes n'aiment pas faire ça parce qu'ils estiment qu'à un moment ou un autre le morceau est marqué par une année ou une époque. Tu ressens pas, toi, ces risques-là?
Si, il y en a qu'on écarte et qu'on écarte définitivement. Il y en a d'autres où on sent un vrai potentiel. C'est pas pour ça qu'on ressort des vieux trucs qu'on a inspiré, c'est pas ça. Parce que des trucs qu'on met de côté et qu'on ressort plus tard, on les retravaille tellement qu'ils n'ont plus rien de voir et qu'on les remet au bout du jour. Quelque chose de vraiment complètement nouveau et quelque chose qui nous plaît à l'instant T. Donc on n'a pas de.
D'accord.
On a assumé ça. Ouais.
Ok. Est-ce qu'à un moment ou un autre dans votre composition, il y a l'idée de dire il faut que ça soit qu'on vous puissiez le retranscrire relativement aisément sur scène ou pas du tout?
Pardon, excusez-moi, j'ai mal entendu le.
Est-ce qu'à un moment dans votre composition, vous vous posez la question de vous dire est-ce que je vais pas travailler le titre de telle direction ou telle direction pour être sûr que vous puissiez le transposer sur scène?
Oh, si, bien sûr, ça peut arriver qu'on se dise ok, on a envie que ça fonctionne en live et on fait en sorte de tirer pour quelque chose qui fonctionne en live. Mais bon, le plus important, ça va être quand même de servir le texte, de servir la parole, de servir les idées qu'on véhicule. C'est quand même ça qui est primordial. Après, au sein d'un même morceau, il peut arriver qu'on puisse chanter. Et donc, tant que ça sert le texte.
D'accord. Donc, comme tu le mentionnais, dans le projet, au sein d'Airshaft, il y a une dimension visuelle, donc c'est un projet assez large. Comment vous avez travaillé ce chemin visuel sur le Festin du Lion, sachant que j'ai vu que les photos, c'est Aurélie Redron et l'artwork, c'est Adrien Chapuis?
Tout à fait. On avait déjà l'idée de ce qu'on voulait pour cet artwork. On avait les grandes lignes de ce qu'on voulait, c'est-à-dire ces deux personnages, c'est-à-dire Satan et son assistant, avec des gens qui les implorent de nous aider, implorent Satan de vraiment arriver au bout de tout. Et donc, on a contacté Aurélie Redron, qui est une très grande photographe, déjà collaboré et je savais qu'elle saurait vraiment bien retranscrire ce qu'on avait en tête. On lui a donné notre grain à moudre et on a fait sa propre version, elle l'a digéré pour nous sortir cet artwork qui est vraiment réussi d'après moi. On est très fiers et voilà, ça a été une collaboration à Simon, on va dire, à Simon et elle, et très satisfaite de ce qu'elle a pu sortir avec le site au départ.
Mais donc, par exemple, le choix des masques, c'est vous qui l'avez fait?
Le choix des masques, c'est nous qui l'avons fait, absolument. Par contre, elle a apporté toute la lumière qui a été sur la photographie, elle a apporté tous les gens nus qui sont à nos pieds. Voilà, c'est vraiment des compositions d'images à plusieurs parties.
Oui, je sais pas ce qui se passe, mais j'espère que tout va bien.
Tout va bien, écoute, on est en terrasse du Black Dog pour la promo, là, au soleil, pour toute la journée.
Enfin, sans dévoiler des secrets, la photo c'est un montage ou vous avez eu ces personnes devant vous dans ce mouvement-là?
Non, non, c'est pas du tout un montage. Ils sont rendus à Lyon pour tourner dans le studio photo d'Aurélie et ces personnes se sont présentées là, ont répondu à l'appel d'Aurélie. Ils trouvaient des gens qui acceptaient de poser nu à nos pieds. C'est un très bon moment avec ces gens-là qui sont demeurant tout à fait charmants et qui ont adoré participer à cette photo un peu en norme.
Ah, ça doit être spécial à vivre, hein, quand même.
C'est très spécial. Tous ces gens étaient nus, ils étaient de tous les âges, corpulents. Il y avait des femmes de 60 ans, un homme de 65 ans. En fait, il y a une alchimie qui s'est passée. Tout le monde a passé un bon moment. C'était très particulier. C'était hors du temps. C'était assez fort à vivre. Et ça correspond assez à ce qu'il était dans cet album aussi. Donc, c'était des gens qui ne connaissaient pas forcément Herschel, c'est l'univers qu'on avait. Mais voilà, ils ont répondu présent et ils l'ont fait avec énormément de bonne volonté et on s'est tous amusés en fait. C'était assez spécial.
Et le côté entre guillemets défaut du corps, soit tu disais par des gens bedonnants ou par des gens d'un certain âge, ça faisait partie de votre cahier des charges ou ça a été une idée d'Aurélie Redon?
Ça fait vraiment partie du style d'Aurélie. C'est quelque chose dans laquelle elle est spécialisée. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes ses photographies. C'est un truc qu'elle a apporté, imaginez pas ou vous savez pas comment mettre en œuvre. Ça fait vraiment partie de son univers. Et c'est aussi pour ça qu'on l'avait choisi, malgré tout. Mais c'est elle qui a apporté ça, ouais, clairement.
Il y a un côté que le corps très cru, quoi.
Absolument, absolument. Brut, ouais. sans retouche, sans détour, sans masquer, pas forcément prendre des gens qui sont doux, de 25 ans, très jeunes, très minces, très machin. Non, c'est un truc qui fait partie de son univers. Et c'est pour ça qu'on l'avait choisi, encore une fois. Et j'ai l'impression qu'on le ressent dans la photo finale. Et en tout cas, on est enchanté par le résultat, ouais, clairement.
D'accord, ok. Donc tu le disais, vous avez fait, on l'a vu d'ailleurs sur vos réseaux sociaux, vous avez donc fait, vous êtes passé donc au Hellfest pour un peu lancer la promotion poursuivre la promotion du disque.
Ouais.
Je sais pas, un souvenir particulier ou un ressenti particulier sur ces quelques jours Hellfest?
La chaleur.
Ah oui, ça.
Très chaud sous ces masques. Non, c'est clair qu'on a eu très chaud, mais en même temps on était là pour ça, c'est le LFS, on était en enfer et on représentait l'enfer. On était finalement comme dans notre salon, on était comme dans des chaussons.
D'accord, ok. Avec l'envie de s'y produire?
Ah oui, écoute, c'est un rêve. Écoute, nous l'année dernière on a fait le Wacken, on a passé un très bon moment, c'est le plus grand festival métal d'Europe. C'est déjà un grand bonheur et un grand plaisir d'y être. Maintenant, si on peut faire une place au LFS l'année prochaine, c'est avec grand plaisir. On n'est pas les décisionnaires, évidemment. Après, les organisateurs du Hellfest savent qu'on est ravis de se produire et on est en train de discuter de ça. Est-ce que ça se fera ou pas, je sais pas, ça reste en main, mais évidemment, si on nous propose de faire le Hellfest l'année prochaine, on sera partant.
Tu mentionnais donc justement le Wacken. Est-ce que de l'autre côté de la scène, entre guillemets, pour les participants, ça a l'air aussi dingue et démesuré que vu du public?
Pardon, redis-moi la question, j'ai mal entendu.
Tu mentionnais là à l'instant le Wacken. Est-ce que de votre côté à vous, c'est-à-dire l'autre côté par rapport au public, est-ce que le festival est aussi dingue et démesuré qu'il en a l'air?
Ouais, le Wacken, c'est un truc énorme. C'est dingue. C'est, ils ont réussi à faire un truc. C'est la 30e édition cette année. En plus, c'est ce qu'ils font, hein, les bonhommes. Clairement. Non. Du point de vue public, c'est déjà fou. Du point de vue artiste, on est aussi très bien encadré. La rigueur à la demande n'est plus approuvée, je crois. Et, non, il faut très bien, franchement. C'est un de mes meilleurs souvenirs de tournée, en tout cas.
Et vous étiez zen? Enfin, vous n'avez pas un gros coup de stress?
Écoute, pas tant que ça, finalement. Après, ça fait 15 ans qu'on tourne, donc
ouais.
On a peut-être l'habitude de gérer le stress. Si ça avait été notre première date, je ne dis pas qu'on l'aurait géré, qu'on l'aurait pas géré différemment. Non, on était assez à l'aise. Après, c'est toujours impressionnant de monter sur une scène comme ça. Non. C'est sûr, hein. C'était hyper facile.
Bah, surtout, vous appelez Airshaft et vous avez en plus plutôt dans un genre qui est plutôt assez populaire, ce côté-là du Rhin.
Oui, après, c'est toujours difficile quand un groupe français joue en Allemagne, hein, ils sont quand même très chauvins là-dessus, ils ont l'impression que l'industriel ne peut être fait que par des Allemands. Après, est-ce qu'on était là-bas parce qu'ils se sont trompés, qu'ils ont cru qu'on était Allemands ? Peut-être, hein, pourquoi pas,
c'est drôle. Ouais, ouais, c'est vrai, mais tant mieux.
Voilà, tant mieux. En tout cas, eux étaient satisfaits, nous on était très contents, on était très bien encadrés. Et on se rend compte en même temps que les groupes français ont du mal à jouer en Allemagne, et on se rend compte aussi que les groupes allemands, à part, on va dire comme Einstein, peuvent avoir du mal à jouer en France. Hein. On a plus, là, avec Alice Brescher, finalement, qui a fait leur deuxième place en France, ben, c'est juste une première au Trabendo, là, immense en Allemagne. La frontière commence à s'effacer, mais pendant très longtemps, là, ces dernières années, c'était compliqué de passer cette barrière de glace du Rhin et nous d'aller jouer là-bas et eux de venir jouer ici.
D'accord. Sur le nouvel album, vous avez pas mal d'invités. J'en cite quelques-uns, Baptiste Bertrand, François Duguest, Daniel Armand, Étienne Bianchi, Emmanuel Worm, etc. C'est l'occasion fait le larron, vous aviez des ambitions particulières vis-à-vis de ces pour faire venir ces artistes?
Non, c'est vraiment l'envie à chaque fois, c'est que, comme on disait, Airshaft pour l'instant est un duo, on faisait tout à deux avec Max. On avait quand même envie derrière de créer une sorte de collectif de collaboration avec plein de gens. Airshaft, c'est deux personnes qui composent, c'est quatre personnes sur scène, mais derrière, il y a quand même plein de gens avec qui on fait des collaborations. Il y a des gens dans l'ombre, par exemple Jesse Feist qui participe à un des morceaux, qui est aussi la coach vocale de Max depuis des années, qui a participé à nos albums d'avant. De notre côté, on a effectivement Étienne Bianchi de Chargot qui a demandé la participation sur un morceau parce qu'on aime ce qu'ils font, parce que c'est des gens talentueux et parce qu'on a envie de collaborer sur un morceau de temps en temps avec ces gens-là. On a même écrit le morceau pour sa voix en disant voilà, on a écrit un morceau où le timbre de sa voix va coller pour et on est ravi qu'il ait accepté parce que si c'est pas lui qui le faisait, ce morceau aurait peut-être été relégué justement des morceaux qu'on n'aurait pas sorti. Pareil pour Emmanuel Warm Food, hein, on entendait sa voix sur le morceau et qu'il avait participé, c'était un morceau qu'on avait sorti. Donc maintenant, c'est des envies précises qu'on a et c'est pas l'occasion de faire le larron. Pour des occasions, c'est le larron, c'est la paix sur le bureau. Donc là, on a pris vraiment les gens qui nous plaisaient, dont on admire le travail et qu'on peut soutenir et on sait qu'ils nous soutiennent aussi.
D'accord. Toujours dans l'aspect visuel, vous avez sorti un premier clip pour How Real Men Do.
How Real Men Do. Ouais,
je vais y arriver. Pardon. Un clip assez particulier, disons. Voilà. C'est quoi la genèse de ce clip?
Écoute, ça fait partie des deux premiers morceaux qu'on a fait après notre remaniement. Deux premiers morceaux sur lesquels, sachant, pour nous, c'était déjà un renouveau, un test aussi, pour voir si effectivement la bonne Max collait, en termes musicales. C'est dit, bon, c'est l'occasion parfaite aussi pour montrer le nouveau visage d'Hercher, qui est un petit peu moins sombre, un petit peu moins glacial qu'avant, un petit peu moins terre à terre, un petit peu moins black metal pur et dur, premier degré qu'on avait avant, pour montrer une nouvelle facette avec un peu plus d'humour, un peu plus de cynisme, un peu plus de grandiloquence et un peu plus de décadence. Et c'était l'occasion, voilà, tout concordait pour faire quelque chose qui changeait vraiment de ce qu'on faisait avant, pour montrer le nouveau visage d'Airshaft, pour montrer le nouvel objectif qu'on a et aussi un peu plus fun maintenant et qu'on prend au sérieux et juste l'entertainment plutôt que quelque chose qui se prend très au sérieux.
D'accord. Il y a d'autres clips dans les tuyaux?
C'est dans les tuyaux, effectivement. Maintenant, on a fait le prochain objectif. Voilà, on finit aujourd'hui la promo de l'album. Le travail de cet été, ça va être l'écriture pour un futur clip. Et pour essayer de l'aboutir le plus rapidement possible. J'ai pas envie de donner de date, parce que la dernière fois qu'on a donné une date, en fait, on a pas beaucoup de 2 ans, finalement, on a 6 ans.
Ouais, bien sûr.
Pour ce clip, on va pas donner de date, mais ouais, là, l'objectif de cet été, c'est de plancher dessus, quoi, aussi. De faire quelque chose prochainement, d'ici la fin de l'année.
D'accord. Quelles sont les prochaines échéances pour vous?
Écoute, aujourd'hui, là, on profite de la promo. Samedi, là, qui vient, donc, après-demain, on organise la release party
voilà.
Pour fêter ça tous ensemble avec les fans et pouvoir les rencontrer, pouvoir boire un verre avec eux, leur expliquer, leur présenter l'album, leur faire écouter au Black Dog.
Toujours au Black Dog, ouais.
Aujourd'hui, ouais, absolument. C'est notre sujet ici. Donc samedi, on fera la release party pour présenter l'album au public qui ne va pas bien venir écouter. Et ensuite, les dates se préparent. On a un nouveau booker qui s'appelle Black Stitch, pardon, qui travaille dessus. Et pour l'instant, on a une date qu'on peut annoncer qui est signée, qui est sûre. C'est le 1er novembre au Warehouse à Nantes. On partagera l'affiche avec Chargot, Punisher Self, OST Pousseron. Et puis, ça sera une soirée multidisciplinaire, puisqu'il y aura aussi des performances de Shibari, voilà, des performances artistiques, un peu plus qu'un simple concert.
D'accord.
Une soirée de fête et de fétichisme et d'art sombre.
Voilà. Vous visez France plus pays limitrophes ou pour l'instant vous restez France ?
Non, nous on aimerait bien évidemment s'exporter, c'est pour ça qu'on a commencé à mettre un pied dehors avec le Vaken, on aimerait bien que ça soit plus, fréquent. C'est pour ça qu'on a aussi un nom qui n'est pas tant francophone, c'est qu'on a toujours eu des gens d'ailleurs et au moins d'Europe. On espère que ça se montrer plus tard. Nous, ça tiendrait qu'à nous, ça fait longtemps qu'on serait en France et qu'on aurait fait d'autres choses.
Bon,
c'est pas du tout, hein, on est très content de faire la France, mais voilà, depuis 15 ans, on a envie aussi de faire et la France et des choses un peu à l'extérieur. On espère qu'avec cette album, on aura un peu plus.
D'ailleurs, j'avais oublié de le poser la question. Suite au Vaken, vous avez senti un frémissement? Vous avez senti quelque chose? Je sais pas, plus de merch, de plus de réseaux sociaux, plus de quelque chose ou pas vraiment?
Pas tant que ça en vrai. Hein. Non, ouais. Le réveil est un peu dur. Finalement, ça n'a pas beaucoup porté de fruits derrière, donc on a un peu travaillé pour. On sent que la frontière allemande est encore un petit peu fermée. Sur place, le retour était très bon. Les gens sont venus me voir, donc c'était vraiment super, qu'ils avaient apprécié. Et après, on espérait qu'un peu plus d'organisateurs qui nous contactent, mais ça n'a pas encore été le cas. Espérons que ça me parle à nous.
Non, mais je crois que c'est bien de le dire aussi, parce qu'il y a beaucoup qui ont l'impression que tu passes au Hellfest ou au Vaken et t'as une avenue garantie, si tu veux. C'est plus compliqué que ça, quand même.
Ben, pas du tout, c'est plus compliqué que ça. Ouais, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné. Non, c'est un travail de fond, sur la longueur. Ça fait 15 ans qu'on travaille dessus, mais il faut encore travailler dessus, tu vois.
Et pour conclure un peu dans ce sujet-là, finalement, de votre petite fenêtre, quelle vision vous avez de la scène plutôt métal française?
Écoute, pour parler même plus spécifiquement de la scène Indus, nous on vient d'une génération, voilà, quand on a créé le groupe en 2004, Indus était plutôt assez porteur, et depuis on a eu une traversée du désert. Depuis cette époque-là, j'ai l'impression que c'était sur celle qui s'en est sortie aussi. Bon, c'était dans les années 2000, on va dire. Là, maintenant, en 2019, on a l'impression qu'il y a un renouveau. Un très bon indicateur, parce qu'au Hellfest, il y avait un plus de groupes électro cette année, avec Alice Brecher, avec Beauty Sur Self, avec Chargot, dont on parlait justement, avec Combi Christ aussi. J'ai l'impression que le public était vraiment rendez-vous sous chaque tente quand ces groupes passaient. Les organisateurs, ils se sont sentis et renouvelleront l'expérience l'année prochaine. Parce que ouais, j'ai l'impression qu'il y a une demande qui revient et que ça revient à la mode, avec le nouvel album de Rammstein aussi peut-être. La scène m'a l'air plus vivace qu'avant, m'a l'air plus vivace il y a 2, 3, 4, 5 ans, et il y a encore du boulot.
Et donc juste, toute dernière question, Rammstein, vendredi ou samedi, t'as pu les voir ou pas?
J'ai pu les voir vendredi, j'ai eu la chance de les voir vendredi, c'était un spectacle incroyable.
Ouais, moi aussi j'y étais vendredi, visuellement ça reste une grosse claque, musicalement on peut discuter, parce que je trouve qu'il y a un peu trop du dernier album qui est moyen, mais...
Ouais, c'est discutable, et puis le son n'était pas forcément...
Ah, le son était bien trop fort et beaucoup assez bouilli, mais bon.
Voilà, voire même dangereux pour l'audition, moi qui suis un peu sensible à ça, la sécurité auditive, moi c'est toute ma vie la musique, je fais un peu attention à mes oreilles, j'ai trouvé ça presque dangereux, par contre après visuellement, bon, voilà, c'est impossible de dire du mal de ça, c'est tellement parfait.
D'accord, bah écoute, la tournée pour l'année prochaine est déjà lancée, donc à suivre.
J'ai vu ça, j'essaierai de me déplacer à Lyon pour les voir.
Ben ouais, on va être plusieurs, on va essayer Zurich ou Lyon, on va voir.
Très bien.
Ok, écoute, un grand merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Merci à toi pour ton intérêt, pour ton temps aussi.
Tous nos voeux pour la suite, et puis donc à très bientôt, potentiellement, j'espère, dès samedi.
À très bientôt, ça marche.
À bientôt, ciao.
Ciao.